Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Vous en avez-tu oui compté?
En année? Mais et où que tu l'enseignes?
Bah, pour au bourg.
Ah bah dis donc, je l'aurai pas cru.
Ah bah faudrait que ça serait seul.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission en galop sur Bretagne 5. Aujourd'hui dans le studio, Jean Guérin et son invité.
Oui, bonjour Daniel, Ben, et j'ai le plaisir de recevoir Jacqueline-Henri Rebourg.
Alors Jean Guérin et Jacqueline, à vous deux.
Merci. Ben le bonjour, Jacqueline-Henri Rebourg.
Bonjour.
J'avons le plaisir à donner l'honneur d'Ersever, Jacqueline-Henri Rebourg, agrégée de lettres, linguiste, et qu'a main sur bout une thèse sur la langue galaise, parce que le galop vous cause des pecs toutes petites. D'ailleurs, votre éveillerie sur le galop, durant vos études, est assez ébobant. Mais valait nous compter tout le là. En premier lieu, Jacqueline, ventier vous présenter, de you que vous êtes oriné, vous avez passé vos premières années de votre vie.
Je suis originaire de Sévignac, près de Bron, donc, où j'ai grandi jusqu'à 6 ans dans la ferme de mes grands-parents. J'y suis restée donc tout ce temps et j'ai appris à parler en fait en galop. Donc c'est ma langue maternelle. À 6 ans, mes parents, qui, comme beaucoup à cette époque-là, avaient dû s'expatrier pour gagner leur vie à Paris, m'ont reprise. Et donc, sans transition, je me suis retrouvée à Paris, où on me disait, alors là, tous les jours, qu'il ne fallait pas parler comme ça, qu'il ne fallait pas dire la banquette, mais le bas-côté de la route, qu'il ne fallait pas dire des badis, parce que tout le monde allait se moquer de moi. Et bien sûr, c'est arrivé plusieurs fois, même si je faisais très attention. Donc la honte du galop, je l'ai connue. On disait bien sûr pas le galop, on disait le patois. Et moi, donc, j'ai appris à parler en patois et j'en ai eu des complexes. Il m'a fallu plusieurs années pour me débarrasser de ces complexes. Et c'est parce que je me suis retrouvée donc, en études de lettres et en plus, donc, le hasard a fait que j'étais à la Sorbonne. Et curieusement, c'est là que j'ai pris conscience que mon patois, c'était pas du français déformé, parce que ça existait avant le français. Bah, c'était pas spécialement une langue de plouc. C'était un moyen d'expression, en tous les cas, qui existait déjà au XIIe siècle, par exemple, parce que faisant ces études de lettres, j'étais, comme c'est obligatoire pour tout le monde, donc j'étais obligée d'apprendre l'ancien français. Et en apprenant l'ancien français dans des textes célèbres, littéraires, Chrétien de Troyes ou Marie de France, par exemple, je découvrais des mots ou des expressions que je connaissais, moi, grâce à mon patois. Donc, petit à petit, j'ai pris conscience que c'était une langue ancienne, certes, mais que c'était, en tous les cas, une langue qui avait aussi eu sa littérature. J'ai connu des textes, j'ai cherché, bien sûr, et j'ai trouvé des textes anciens, par exemple, de Noël Dufay, qui habitait près de Rennes, qui était conseiller au Parlement, donc un hobereau de cette région, qui s'intéressait à la façon de parler des paysans qui entouraient son manoir et qui a donc rapporté, dans un livre par exemple qui s'appelle « Propos rustiques », il a rapporté les paroles des paysans et là on trouve des mots qui existait aussi dans mon patois. Donc, j'étais petit à petit tout à fait fière, finalement, d'avoir parlé ce patois. Alors, il reste à savoir pourquoi ça s'appelait patois, mais ça, c'est une autre affaire.
Voilà. Alors, professionnellement, qui vous en avez fait du galop?
Alors, ça a été long, mais ayant donc fini mes études, j'ai tout fait pour rentrer en Bretagne, évidemment. Alors, je ne vous ai pas dit que pendant tout le temps qui s'est écoulé entre, je dirais, entre 12 et 18 ans, je revenais bien sûr chaque année dans la ferme des grands-parents. Et en cachette de tout le monde, j'avais mon petit carnet sur lequel j'écrivais les mots que j'aimais bien, les phrases que j'aimais bien, ou alors des expressions toutes faites, mais qui me parlaient bien. J'aimais bien, par exemple, quand on dit de quelqu'un qui a un air un peu ahurique, il déboule des yeux comme un co-malade. Si on a déjà vu un co-malade, c'est suggestif. J'aimais bien, entre autres, je cite des expressions comme ça au hasard, à « Oh, c'est yeux et les pilotons qui mènent les ouais et chants ». Pour dire que chez ces gens-là, ce sont les enfants qui commandent. Donc des expressions imagées comme ça me plaisaient beaucoup. J'en ai collecté donc, mais tout ça un peu en cachette parce que ça n'intéressait personne autour de moi, ni parmi les amis parisiens que j'avais conservés, ni parmi les nouveaux que je me faisais en revenant en Bretagne. Donc ça a été pour moi jusqu'à ce que je revienne en Bretagne enseigner. Que je sois nommée, mon premier poste a été à Quintin. Et donc, j'avais des élèves qui venaient de la campagne. J'enseignais le latin et le français. Donc, j'avais des occasions de les intéresser au sujet. Et je leur ai, à chaque fois que je pouvais, je leur montrais la relation entre le latin et le gallo. Par exemple... Je leur ai fait part très vite d'une expression que j'avais découverte en me promenant autour de chez moi et en rencontrant deux pépés qui étaient en train de fendre du bois au bord de la forêt. Et je leur demande comme ça, mais c'est pour qui ce bois? Et ils me répondent, « J'ton kota tibi ». Alors ça, je ne connaissais pas l'expression, donc je m'interroge, je la note dans un coin de ma mémoire. Et puis revenu chez moi, évidemment, ça sonnait latin pour moi. Donc je cherche sur mon dictionnaire, je trouve l'expression « cota tibi tota mihi », ce qui veut dire « telle quantité pour toi, autant pour moi ». Donc on est moitié-moitié, ça voulait dire. Mais on m'avait répondu « cota tibi » en parlant latin, sans le savoir, bien sûr. Donc pour moi, c'était une trouvaille complètement exceptionnelle. Et ça, c'est un souvenir encore émouvant quand j'y repense, aussi émouvant que le jour où j'ai trouvé une borne romaine. Là, c'était une pierre, et la première fois, c'était un mot. Voilà.
Alors, juste un mot avant de faire une petite pause. Par rapport à vos élèves que vous voyez tous les jours dire des mots de patois ouais. ou de gallo, comment ils voyaient la chose? Voilà.
Ah bien, évidemment, ils étaient très surpris au début. C'était la première fois, je pense, qu'à l'école, on leur parlait de mots gallo. Ils n'étaient pas très fiers au début, mais comme ils voyaient le prof de français qui s'intéressait à ça, bah, ils avaient envie, ceux qui habitaient à la campagne, de montrer qu'ils en connaissaient aussi. Donc au début, c'était timide et très vite, ils arrivaient, selon les sujets sur lesquels je demandais de faire des recherches, ils arrivaient avec des listes de mots ou d'expressions. À ce moment-là, c'était quand même dans les années 70-80, on parlait encore autour d'eux en gallo. Donc, ils arrivaient avec des moissons de mots, ils étaient très contents. Et pour finir, on avait même fait un journal dans lequel on intégrait des petites histoires et puis des recherches de vocabulaire, comme ça.
On va faire une petite pause à cette heure et on se retrouve dans quelques secondes. Thank you.
Après cette courte pause, vous êtes bien sur Bretagne 5 et Jean Guérin et son invité reprennent leur conversation.
Vers, je retrouverai Jacqueline Henri Rebourg, au qui j'avons causé de sa découverte du galop et du piési qu'elle a eu à travailler, à herculer sur les mots. C'est un plaisir pour nous de leur oui. J'allons, Jacqueline, si vous voulez bien, allez nous donner un petit texte à vous avant de reprendre la conversation, parce que j'allons causer plutôt du galop d'année. Comment il est vaille, comment les gens se débrouillent avec, au tout. Tu veux le texte que vous nous proposez ?
Je propose un petit texte poétique que j'avais écrit il y a longtemps, justement pour évoquer le plaisir que j'ai toujours eu à parler galop quand je trouvais des interlocuteurs.
Eh bien, c'est avec plaisir qu'on va vous oui.
Et il s'intitule « Langue buissonnière » ou « Parlement buissonnier ». J'ai pétri en patois les mots de tous les jours. Tantôt, à l'arveillure, à t'merienné, hautour. J'ai croqué en patois les saveurs du courti. Meuleton et castille, guernet, ouézel, badille. J'ai humé en patois le sentiment des fleurs. Bons hommes et jalousie, porc et ramoneur. J'ai goûté en patois le ciel et puis les vents. Le temps qui se cotit, les martiaux et les buants. J'ai couru en patois par landes et rochers, saintes, venelles, chérées, buissons et chaliers. J'ai appris en patois la terre à mes genoux, égarifié, bouzou, couellé et bouillonnou. J'ai souri en patois au réconfort des fouets, ribaoudi en émouette, belluette et brousillé. C'est encore en patois que j'ai ouï les diris qui me disaient la vie, le sire et filoiserie. Et l'on aurait voulu m'arracher tous ces mots et drôler tous ces giers et mahonner mon piot. C'est toujours en patois que j'allose ma terre, que je huche mes joies et vomis mes colères.
Bravo et merci. Alors justement, je vais rebondir sur votre texte et les mots, parce qu'on voit là la richesse du vocabulaire. Alors, causez-nous un petit de la richesse du vocabulaire du galop, et après on va faire un saut sur année, comment vous voyez les choses. Alors, la richesse du vocabulaire en permis.
Alors, je n'ai pas précisé, donc, lorsque j'ai pris conscience que ce que je parlais n'était pas une déformation du français, le français ayant été, dans la forme où on l'utilise actuellement, fixé au XVIIe siècle, le galop ayant, sous sa forme actuelle, existé depuis le Xe siècle à peu près, pense-t-on. Donc, il m'intéressait de savoir pourquoi on avait appelé cette langue un patois. J'ai fait mes recherches et évidemment, j'ai vu que le mot patois n'existait que depuis le XVIe siècle. Tout simplement parce que jusqu'au XVIe siècle, on le sait, chaque région de France avait sa langue. On les appelle maintenant donc les langues régionales. Mais il n'y avait pas de raison d'utiliser une autre langue. C'est à partir du XVIe que le roi François Ier a décidé, lui, dans son désir de centralisation du pays, d'imposer une langue. Évidemment, il a imposé la langue qu'il connaissait, puisqu'il habitait en Île-de-France, que la langue de cette région s'appelait le francien, il a imposé par une ordonnance, lui aussi, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a été signée donc en 1539. Il a imposé que sur tout le territoire, tous les actes officiels soient rédigés en francien. C'est au siècle suivant qu'on a utilisé le mot français, qu'il a évolué en français. Donc, c'était intéressant de savoir ça, parce qu'à partir de ce moment-là, évidemment, tous les gens qui voulaient travailler dans le milieu juridique, dans le milieu administratif, étaient obligés forcément d'utiliser cette langue d'Île-de-France. Ils ont, on va dire, tous ceux qui étaient au pouvoir, eu l'idée d'inventer un mot pour désigner toutes ces autres langues de région qui n'étaient pas privilégiées, qui désormais n'étaient plus reconnues et dont il fallait que le peuple se débarrasse progressivement. Et le mot patois vient de l'adjectif patau que nous avons et qui désigne quelqu'un qui n'est pas très à l'aise et pas très dégourdi. Donc le mot patouais, c'était pareil, c'est de la même famille, donc c'était une langue pour gens mal dégrossis. Il fallait donner des complexes pour que les gens abandonnent leur langue. Et donc j'ai pris conscience de ça, et à partir de ce moment-là, bien sûr, je me suis dit, mais en effet, pourquoi ça ne serait pas une langue ? Mon problème était là. Bah, quand on sait ce qu'est une langue, hein, c'est, si vous regardez sur un dictionnaire, c'est marqué moyen d'expression et de communication qui est commun à un groupe social. Bon, donc c'est assez vague. Et ce moyen d'expression, quand on travaille dessus un peu plus, on voit que ça veut dire qu'il y a un lexique particulier, qu'il y a une grammaire un peu particulière. Et puis souvent aussi une prononciation spécifique. Donc en examinant le gallo, on se rend compte qu'effectivement, il y a du vocabulaire, et du vocabulaire qui est parfois bien différent du français. Je vous prends comme exemple des mots qui désignent les coquillages ou les crustacés, pour changer, parce que souvent on parle du gallo... terrien, mais là c'est intéressant aussi de savoir que tous les pêcheurs, les marins, utilisaient des mots comme les mansaux pour dire les couteaux, ou bien les brigaux pour dire les bigorneaux, les cocards c'était les prères, les ricardiaux c'était les coquilles Saint-Jacques. Donc là aussi il y a toute une mine de mots qui disparaissent sans doute progressivement. Je voulais aussi montrer qu'un verbe comme se chômer, se tenir debout, est très riche de dérivés, c'est-à-dire qu'il y a toute une famille de mots. D'abord, il a son origine latine, il vient de comare, qui veut dire se tenir debout, puis ensuite, on a le chômant. Le chômant, ça désigne le squelette, c'est-à-dire ce qui nous permet de se tenir debout. On a le chômé, qui désigne un groupe de gerbes qu'on place les unes contre les autres pour qu'elles sèchent au milieu du champ, hein, les gerbes de blé qu'on vient de couper. On a la chaumette qui est un instrument en bois qui permet aux enfants d'apprendre à marcher, l'ancêtre du youpala. On a aussi un antonyme, c'est-à-dire un mot de sens contraire, quand on dit « tu vas me foutre la paix parce que je vais te déchaumer ». Et là, c'est que ça barde quand même, hein. C'est que les choses ne vont pas bien. On dit, par exemple, il m'a dit ça de chemin, c'est-à-dire en restant debout, en me regardant effrontément. Donc de chemin, ça montre en tous les cas qu'il y a toute une famille de mots. Ouais, donc que c'est très riche.
Je voyais mon père, on déchomme les blés, enfin la terre, après avoir coupé les germes.
Voilà.
C'en est un out.
Oui, oui. Donc ça, c'est au niveau du vocabulaire. Au niveau de la prononciation, on a nos particularités. Je ne parlerai pas de ce qu'on appelle les triphtongues, c'est-à-dire une association de trois sons comme le « i-ya-ou ». On a trois sons ensemble. Et on a toute une famille de mots qui fait son singulier en « e », un « oisé », et son pluriel en « i-ya-ou ». Donc un oisé des oisiaux, un choté des chotiaux, etc. Un couté des coutiaux. Donc ça, c'est une particularité phonétique, mais aussi une particularité grammaticale avec un singulier en « et un pluriel en « yao ». On a également des consonnes qui sont bien spécifiques au gallo que, à ma connaissance, on n'a pas retrouvé dans d'autres langues jusqu'ici. Ce sont des consonnes qu'on appelle affriquées en termes de linguistique. Ce sont deux sons associés là. Quand je dis du gi. Eh bien, je ne dis pas du gi, c'est bien la différence, hein, du gi, ou quand je dis un kaschet, donc le tche et le dje sont deux consonnes qui sont vraiment particulières au galop. Je vous dis, jusqu'ici, on n'a pas trouvé d'autres langues qui aient ces sonorités. Donc des particularités phonétiques, des particularités lexicales, grammaticales aussi. Hein. Par exemple, il faut parler du passé simple. En galo, on utilise le passé simple. Hein. On peut entendre une phrase comme « Le petit lac couri et réussi a chaillé dans le déway ». Eh bien, il courut, il glissa et tomba dans la voie. On voit bien qu'on a un passé simple en « i », quasiment pour tous les verbes, mais il y en a qui font en « aille », hein, « idaille », « ilaille ». Il y a quelques verbes qui sont en « aille », autrement, c'est du « i ». Et ça n'est pas une aberration comme on nous l'a souvent appris à l'école, c'est pas du tout aberrant, parce qu'en latin, toutes les terminaisons d'un temps qui correspond au passé simple étaient en « i ». Donc c'est un souvenir, c'est un état de la langue, et puis c'est tout. Donc cette particularité du passé simple, qui est utilisée pour exprimer des actions précises, ponctuelles, qui défilent dans le temps passé, est beaucoup moins utilisée en français oral. On utilise le passé simple à l'écrit, et encore, mais à l'oral, ça passe pas. Alors, on met de l'imparfait, mais c'est pas du tout la même valeur temporelle qui est exprimée par l'imparfait. Donc là-dessus, je dirais que le galo est plus précis que le français, à l'oral en tous les cas.
Pour nous autres qui défendons le galo et cherchons à le rendre meilleur, ça nous fait plaisir de oui des choses comme elle a. Merci Jacqueline pour toutes ces expliques. J'avais un dit de plaisir à vous, oui. Malheureusement, le temps passe trop vitement. Je vous dis à bientôt et on va vous interroger la semaine prochaine. À bientôt Jacqueline.
Au revoir.
Merci à tous les deux et bien entendu, la suite de cette émission la semaine prochaine. Votre émission se termine. Merci aux intervenants et à notre réalisateur Frédéric Guillon. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur bretagne5.fr. À très bientôt sur votre radio préférée.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.